Eugène Ionesco, êtes-vous déconcerté par le tour qu'a pris votre vie ?
Non, pas tellement.
Je voudrais savoir si elle se réalise comme vous l'aviez prévu.
Comme je l'espérais. J'ai voulu, comme on dit, me réaliser. C'est-à-dire me justifier. Justifier mon existence. Et c'est pour ça que j'ai fait de la littérature.
Ça peut pas faire de mal.
Ceci dit, j'aurais voulu aller bien plus loin. Parce que la littérature n'est qu'un pis-aller. Elle ne donne pas la connaissance suprême. C'est un moyen de passer le temps et de masquer vis-à-vis de soi-même un échec fondamental. La vie est un échec.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Des journées entières sans même pouvoir enlever ses bottes, grogna Oblomov en enfilant sa robe de chambre. Mes pieds brûlent, voilà tout. Mais elle ne me plaît guère, votre vie pétersbourgeoise, poursuivit-il, s'allongeant sur le divan.
Et quelle vie te plaît ?
Bon, en tout cas, pas celle-ci.
Mais qu'est-ce qui te déplaît à ce point ?
Tout ! Cette éternelle course des uns derrière les autres, cet éternel petit jeu des passions, des avidités, des médisances, des coups d'épingle, et cette façon qu'ont les gens de toujours vous dévisager de la tête aux pieds. Enfin ! À écouter leur conversation, la tête vous tourne et l'on devient idiot à son tour. Au début, il vous semble que tous ces messieurs sont intelligents à cause de leur dignité extérieure, mais très vite on les entend parler et on déchante. Celui-ci a touché tant, dit l'un. Pourquoi ? Crie aussitôt l'autre. Et un troisième de constater qu'un quatrième a perdu hier au jeu. Mais quel ennui ! Quel ennui ! Et où est l'homme dans tout cela ? Comment peut-il s'éclipser ainsi et se monnayer en mesquinerie ?
Il faut bien que quelque chose occupe le monde. Et puis, chacun a ses intérêts, c'est la vie.
Le monde, quel monde ? Tu m'envoies sans doute exprès dans le monde, André, pour me faire passer l'envie d'y jamais retourner. Et la vie ? Une belle vie en vérité. Mais ils ne vivent pas, ils volent simplement comme des mouches, sans cesse et dans tous les sens, et bourdonnent, ils bourdonnent. Pourquoi ? Ils passent leur vie à dormir, ce sont des cadavres. Je te demande aussi en quoi je suis plus coupable qu'eux si je reste couché.
Sais-tu, il y a que tu raisonnes un peu comme un homme des très anciens temps. Mais après tout, continue. Si tu raisonnes, cela prouve déjà que tu ne dors pas. Oui, continue.
Cet incorrigible dormeur est un personnage que je connais bien pour l'avoir longtemps incarné au théâtre. C'est Oblomov, un jeune homme mélancolique qui incarne l'âme russe du 19e siècle. Ce chef-d'œuvre de l'écrivain Ivan Gontcharov, publié en 1850, qu'a choisi mon invité aujourd'hui pour ouvrir cette émission consacrée à ses plus belles lectures, à sa bibliothèque. Bonsoir Adèle Van Rett.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes philosophe, vous animez chaque matin sur France Culture l'émission Les Chemins de la Philosophie. Ce soir, vous nous ouvrez votre bibliothèque idéale et vous nous faites découvrir les grands noms de la littérature qui ont compté pour vous dans votre itinéraire intellectuel. Car vous aimez à dire qu'il n'y a pas de frontière entre les disciplines et que littérature et philosophie sont intimement liées. Restons en compagnie d'Oblomov et découvrons l'étrange maladie qui le submerge, l'empêchant de vivre. Ce qui vous touche, chère Adèle, dans ce portrait du philosophe en chambre, c'est l'éloge de l'homme couché qui préfère la solitude à l'ennui mondain d'une société hypocrite. Selon vous, Oblomov n'est pas un paresseux. C'est un homme que sa grande lucidité fait souffrir au point de le clouer au lit, littéralement. Il souffre tellement que, pour ne pas ajouter un surcroît de douleur, il renonce à toute forme de passion. Mais le renoncement ne le console pas de certains regrets qui l'assaillent. Retrouvons Oblomov et son ami d'enfance Stolz, d'origine allemande, qui tente une nouvelle fois de sauver son compagnon de la mélancolie. Vous serez Stolz à nouveau et je serai votre dévoué Oblomov. Ne me gronde pas, André. Aide-moi plutôt. Je sais tout cela, je comprends tout cela. Mais je n'ai ni force ni volonté. Donne-moi donc cette force et cette volonté qui me manquent. Et l'intelligence aussi. Et puis mène-moi où tu voudras. Je marcherai derrière toi. Maintenant ou jamais. Tu as raison. Encore un an et il sera trop tard.
En arriver là, toi. Je te revois encore, jeune, mince, vif. Je te revois encore allant chaque jour de Prechistenka à Cordino et aussi là-bas dans le jardinet. Tu te souviens des deux sœurs ? Tu leur parlais de Rousseau, de Schiller, de Goethe, de Byron. Tu faisais l'important, tu voulais purifier leur goût.
Comment, de ça aussi tu te souviens, André? Oui, je rêvais avec elle. Je leur soufflais des espoirs, je développais des pensées, j'exprimais des sentiments aussi. Les sentiments à ton insu pour que tu ne te moques pas de moi. Mon Dieu, pourquoi tout cela s'est-il éteint? Pourquoi tout cela est-il mort? Pourtant, je n'ai connu ni tempête, ni ravage, je n'ai rien perdu. Aucun joug ne pèse sur ma conscience, pure comme de la glace. Et aucun coup n'a frappé ni tué mon amour propre. Alors Dieu seul sait pourquoi tout cela a péri. Sais-tu, André, que jamais de ma vie aucun feu ne s'est allumé? Ni bienfaisant, ni destructeur, aucun. Ma vie n'a pas connu ce matin sur lequel peu à peu tombent les lumières et les couleurs et qui ensuite se transforme en jour et flambe de la grande chaleur. Ouais, tout alors flambe, tout scintille, tout éclate avant que la douceur et la pâleur ne viennent. Et c'est alors le soir, l'extinction. Chez les autres, les choses se passent ainsi, mais ma vie à moi a commencé par cette extinction. Bizarre, mais vrai. Dès les premiers instants où j'ai pris conscience de moi-même, j'ai senti déjà que je m'éteignais. Je m'éteignais quand je rédigeais mes rapports au bureau. Je m'éteignais parmi mes camarades quand j'écoutais leurs ragots, leurs bavardages méchants et plats. Je m'éteignais en voyant l'amitié faussement entretenue par des réunions sans cordialité. Je gaspillais mes dernières forces avec Mina, m'imaginant l'aimer. Et je m'éteignais enfin à monnayer ma vie et mon intelligence en allant sans cesse de la ville à la campagne, de telle ou telle villégiature à Gorokovaïa, sachant seulement que c'était le printemps à cause de l'arrivée des langoustes et des homards, l'automne et l'été à cause des fêtes champêtres. L'amour propre lui-même, à quoi le dépensais-je? À commander simplement mes vêtements chez un tailleur à la mode, à être reçu dans une maison notoire, à serrer la main de tel prince. Et pourtant, l'amour propre, c'est le sel de la vie. Seulement voilà, je n'ai pas compris la vie. Toi, tu apparaissais, tu disparaissais comme une sorte de météore éclatant, vertigineux. Et moi, pendant ce temps, je m'éteignais. Stolz ne répondait plus par un sourire négligent aux paroles d'Oblomov. Maintenant, il se taisait, sombre et attentif. Tu m'as dit tout à l'heure que mon visage n'a plus de fraîcheur, qu'il est chiffonné. C'est vrai, je ne suis plus qu'une vieille défroque flasque, usée non par le climat ou le travail, mais parce que depuis 12 ans, j'ai gardé prisonnière la lumière qui en moi cherchait une issue. Cette lumière, elle n'a fait que brûler les parois de sa prison, puis rester captive. Elle s'est éteinte. Ainsi, mon cher André, 12 ans ont passé. Je n'ai même plus envie de me réveiller.
Mais tu es un poète, Ilia.
Oui, un poète dans la vie. Parce que la vie, c'est de la poésie. Libres hommes de la fossée.
Mais pourquoi ne t'es-tu pas échappé? Pourquoi n'as-tu pas fui quelque part au lieu de périr en silence?
Fuir où?
Où? Bien à ta place, je serais parti en Sibérie ou à Nasitka.
Voilà bien les remèdes radicaux que tu prescris toujours. Stolz resta un moment silencieux, immobile, sous l'effet de cette confession. Puis il soupira et dit...
Oui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais je ne t'abandonnerai pas. Je te sortirai d'ici. Nous irons d'abord à l'étranger, puis à la campagne. Tu maigriras un peu, ton spleen diminuera, et par la suite, nous te trouverons une occupation.
Oui. Ah oui, partons d'ici, partons n'importe où, acquiesça Oblomov dans un cri.
Maintenant ou jamais, rappelle-toi.
Stolz riait, puis allumant une bougie, il souhaita une bonne nuit à son hôte et partit se coucher. Et si la mélancolie, à l'opposé de la paresse, était une sorte d'intranquillité existentielle? Quittons la Russie du XIXe siècle pour le Portugal, au début du XXe. Un autre jeune homme, modeste employé de bureau comme Oblomov, s'ennuie dans un monde où il se sent étranger aux autres et à lui-même. Il s'agit de Bernardo Suarez, l'un des nombreux pseudonymes de l'écrivain Fernando Pessoa. C'est sous ce nom que l'auteur signe son chef-d'œuvre, Le Livre de l'Intranquillité, rédigé pendant plus de 20 ans, de 1913 à sa mort en 1935, et qui sera publié de manière posthume en 1988. Ouvrons ce journal intime d'un homme tourmenté dont l'identité fragmentée lui permet de tout sentir de toutes les manières, selon la devise de Pessoa. Interrogé sur ses nombreux doubles, l'écrivain répondait « Je ne change pas, je voyage ». Et le plus beau voyage est celui qui lui donne enfin corps jusqu'à l'épuisement, dans l'acte d'écrire.
J'ai assisté incognito à la déroute progressive de ma vie, au lent naufrage de tout ce que j'aurais voulu être. Je peux dire, et c'est une de ces vérités mortes sans qu'il soit besoin de fleurs pour le dire, qu'il n'est pas une seule chose que j'ai voulu, ou en laquelle j'ai placé, même un instant, ne fût-ce que le rêve de cet instant, qui ne se soit réduite en miettes sous mes fenêtres comme de la poussière, semblable à de la pierre tombant d'un pot de fleurs du dernier étage. On dirait même que le destin s'est toujours plu à me faire aimer ou vouloir tout d'abord ce qu'il disposait lui-même pour que je voie bien, dès le lendemain, que je ne le possédais ni ne le posséderais jamais. Ironique spectateur de moi-même, je n'ai jamais, malgré tout, renoncé au spectacle de la vie. Et puisque je sais aujourd'hui par avance que chaque vague espoir sera de toute façon déçu, je souffre du plaisir spécial de savourer la déception en même temps que l'espoir, tel un mets amer et sucré tout à la fois. Certains disent que la vie est impossible sans espérance, et d'autres qu'avec l'espoir, la vie est bien vide. Pour moi, qui aujourd'hui n'espère ni ne désespère, la vie est un simple cadre extérieur qui m'inclut moi-même et à laquelle j'assiste comme à un spectacle dépourvu d'intrigue, fait pour le seul plaisir des yeux, balaise ensuite, feuilles agitées par le vent, nuages où la lumière du soleil prend des couleurs mouvantes, enchevêtrement de rues anciennes tracées au hasard dans des quartiers disparates de la ville. Je suis en grande partie la prose même que j'écris. Je me déroule en périodes et en paragraphes. Je me sème de ponctuation. Et dans la distribution sans frein des images, je me déguise comme les enfants, en roi vêtu de papier journal, ou dans la façon dont je crée du rythme à partir d'une série de mots. Je me couronne comme les fous, de fleurs séchées, mais toujours vivantes dans mes rêves. Combien de fois, cependant, au beau milieu de cette insatisfaction paisible, n'ai-je pas senti monter peu à peu en moi, jusqu'à l'émotion consciente, le sens aigu du vide et de l'ennui de penser tout cela. Combien de fois n'ai-je pas ressenti l'amertume essentielle de cette vie étrangère à la vie humaine, vie où il ne se passe rien, sauf dans sa conscience d'elle-même. Combien de fois, m'éveillant de moi, n'ai-je pas entrevu du fond de cet exil que je suis, combien il vaudrait mieux être le personne de tout le monde. L'homme heureux qui possède au moins une amertume réelle, l'homme satisfait qui éprouve de la fatigue au lieu d'ennui, qui souffre au lieu de supposer qu'il souffre, qui se tue, oui, au lieu de se laisser mourir. Je suis devenu un personnage de roman. Une vie lue. Ce que je pense arrive aussitôt en mots, mêlés à des images qui le défont, s'ouvrent en rythme, qui sont déjà quelque chose d'autre. À force de me recomposer, je me suis détruit. À force de me penser, je suis devenu mes propres pensées. Mais je ne suis plus moi. Je passe ma vie à me demander si je suis profond ou non, sans autre son d'aujourd'hui que mon regard qui me montre, clair sur fond noir dans le miroir d'un puits vertigineux, mon propre visage, qui me contemple. En train de le contempler. Je suis une sorte de carte à jouer, une figure ancienne et inconnue, seul vestige d'un jeu perdu. Je n'ai aucun sens. J'ignore ma valeur. Je n'ai rien à quoi me comparer pour me trouver. Et ainsi, dans les images successives par où je me décris, non sans vérité, mais avec quelques mensonges, je me retrouve finalement davantage dans ces images qu'en moi-même. Je me raconte tellement que je n'existe plus, et j'utilise comme encre mon âme elle-même, qui n'est bonne d'ailleurs à rien d'autre. Mais la réaction cesse À nouveau, je me résigne. Je reviens en moi-même à ce que je suis, même si ce n'est rien. Et quelque chose comme des larmes sans pleurs brûle dans mes yeux fixes. Quelque chose comme une angoisse qui n'a pas été gonfle ma gorge sèche. Mais je ne sais pas même ce que j'aurais pleuré si je l'avais fait, ni pour quelle raison je ne l'ai pas fait. La fiction me suit comme mon ombre. Et tout ce que je voudrais, c'est dormir.
J'ai relevé cette phrase dans le volume 2 du livre de l'intranquillité. Écrire, c'est oublier. La littérature est encore la manière la plus agréable d'ignorer la vie.
Je pense que la littérature, c'est plutôt une illusion.
Antonio Tabucchi.
Écrire, ça donne des illusions. Une illusion d'une aventure qui peut-être ne serait jamais complète. L'impression d'ouvrir une porte et trouver une autre porte fermée. Et l'illusion aussi de remplacer la vie qui, comme Pessoa a dit, n'est jamais suffisante. Ne suffit jamais. Toute création d'ailleurs naît à cause de ça, parce que la vie est insuffisante.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Thank you.
Découvrons à présent un autre poète à la sensibilité exacerbée. Il est le contemporain de Pessoa, de 15 ans son aîné. Stefan Zweig disait de lui, dans Le Monde d'hier, « Son extraordinaire sensibilité ne supportait pas que rien ni personne l'approchât de trop près. » Cette personnalité fragile n'est autre que le poète autrichien Rainer Maria Rilke. Né en 1875, mort en 1926. Il est l'auteur d'une magnifique correspondance sur la vocation littéraire. Ce sont les lettres à un jeune poète, rédigées entre 1903 et 1908, et publié en 1929. Un jeune militaire tenté par l'écriture, du nom de Franz Kapus, lui écrit pour lui demander conseil et lui confier ses doutes. Voici l'une de ses plus belles réponses où, au-delà du découragement, Rilke invite le jeune homme à accepter la tristesse et à la sublimer en un acte créateur. Suède, le 12 août 1904. Je viens encore vous entretenir, cher monsieur Kapus, bien que je n'ai guère à vous dire des choses pouvant vous être de quelque secours ou utilité. De grandes et multiples tristesses auraient donc croisé votre route et leur seul passage, dites-vous, vous a ébranlé. De grâce, demandez-vous si ces grandes tristesses n'ont pas traversé le profond de vous-même. Si elles n'ont pas changé beaucoup de choses en vous, si quelques points de votre être ne s'y est pas proprement transformé. Si notre regard portait au-delà des limites de la connaissance, et même plus loin que le halo de nos pressentiments, peut-être recueillerions-nous, avec plus de confiance encore, nos tristesses que nos joies. Elles sont des aubes nouvelles où l'inconnu nous visite. L'âme, effarouchée et craintive, se tait. Tout s'écarte. Un grand calme se fait. Et l'inconnaissable se dresse silencieux. Presque toutes nos tristesses sont, je crois, des états de tension que nous éprouvons comme des paralysies, effrayés de ne plus nous sentir vivre. Nous sommes seuls alors avec cet inconnu qui est entré en nous, privé de toutes les choses auxquelles nous avions l'habitude de nous confier. Nous nous trouvons dans un courant dont il nous faut subir le flot. La tristesse, elle aussi, est un flot. L'inconnu s'est joint à nous, s'est introduit dans notre cœur. Dans ses plus secrets replis. Déjà même, ce n'est plus dans notre cœur qu'il est. Il s'est mêlé à notre sang, et ainsi nous ne savons pas ce qui s'est passé. On nous ferait croire sans peine qu'il ne s'est rien passé, mais bien des signes nous indiquent que c'est l'avenir qui entre en nous de cette manière, pour se transformer en notre substance, bien avant de prendre forme lui-même. Voilà pourquoi la solitude et le recueillement sont si importants quand on est triste. Ce moment d'apparence vide, ce moment de tension où l'avenir nous pénètre est infiniment plus près de la vie que cet autre moment où il s'impose à nous du dehors, comme au hasard et dans le tumulte. Plus nous sommes silencieux, patients et recueillis dans nos tristesses, plus l'inconnu pénètre efficacement en nous. Il est notre bien, il devient la chair de notre destinée. Si nous revenons à la solitude, il nous devient de plus en plus clair qu'elle n'est pas une chose qui nous est loisible de prendre ou de laisser. Nous sommes solitude. Oui, mais il faut partir de cette vérité. Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. Au fond, le seul courage qui nous est demandé est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons. Nous n'avons aucune raison de nous méfier du monde, car il ne nous est pas contraire. S'il y est des frayeurs, ce sont les nôtres. S'il y est des abîmes, ce sont nos abîmes. S'il y est des dangers, nous devons nous efforcer de les aimer. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours, qui attendent que nous les secourions. Aussi, cher monsieur Kapus, ne devez-vous pas vous effrayer quand une tristesse se lève en vous, fût-elle une tristesse plus grande que toutes celles que vous avez vécues, quand une inquiétude passe, comme ombre ou lumière de nuage sur vos mains et sur votre fer, vous devez penser que quelque chose se fait en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main, à elle, et ne vous abandonnera pas. Pourquoi voulez-vous exclure de votre vie souffrance, inquiétude, pesante mélancolie dont vous ignorez l'œuvre en vous? Pourquoi vous persécutez vous-même avec cette question « d'où vient tout cela et où va tout cela ?» Vous savez bien que vous êtes évolution et que vous ne désirez rien tant vous-même que de vous transformer. Tant de choses se font en vous en ce moment. La grande chose, c'est que vous ayez pu remplacer un mensonge par du sincère et du vrai. C'est une phase de votre vie, cette vie pour laquelle je forme tant de vœux. Songez combien votre âme d'enfant enviait le cercle des grandes personnes. Je vois maintenant que ce cercle des grandes personnes ne vous suffit plus et que vous aspirez plus haut. Voilà pourquoi votre vie restera difficile. Voilà pourquoi aussi elle ne cessera de prendre de l'ampleur. Mais s'il me faut vous dire encore une chose, que ce soit celle-ci, celui qui s'efforce de vous réconforter, ne croyez pas, sous ces mots simples et calmes, qui parfois vous apaisent, qu'il vit lui-même sans difficulté. Sa vie n'est pas exempte de peine et de tristesse qui le laisse bien en deçà d'elle. S'il en eût été autrement, il n'aurait pas pu trouver ces mots-là. Votre Rainer Maria Rilke. Si la tristesse est signe de l'infini en nous, elle est aussi l'envers inéluctable du bonheur. Ouvrant à nouveau le roman de Goncharov un an après les projets de départ d'Oblomov, si le jeune homme a quitté sa chambre, c'est pour s'installer par confort chez sa maîtresse. Afin de s'épargner la souffrance de la passion, il a renoncé au grand amour de sa vie, la belle Olga. Par dépit, celle-ci finit par épouser Stolz. Ensemble, ils mènent une vie harmonieuse et équilibrée. Mais après quelques années de mariage, des doutes assaillent Olga. Stolz n'est pas dupe du mal-être de son épouse qui dissimule des sentiments encore vivaces pour Oblomov. Vous serez Olga, chère Adèle, et moi je serai votre mari.
Cela se passait après 3 ou 4 ans de mariage. L'être humain est un être bizarre et peu à peu Olga s'inquiéta, s'interrogea. Il lui semblait que sa vie heureuse ne lui suffisait plus. Elle s'en lassait. Qu'elle exigeait, on ne sait, elle ne savait elle-même, quel phénomène nouveau, irréalisable, comme si elle eût voulu aller toujours plus loin, toujours plus avant. Est-il possible que je puisse encore souhaiter quelque chose? Aller, mais aller où? Elle interrogeait le ciel, la mer, la forêt, mais aucune réponse ne venait. La nature lui répétait toujours la même chose, elle n'y découvrait que le flux incessant de la vie, sans commencement, sans fin. Qu'ai-je donc? Se demandait-elle avec désespoir, quand soudain elle se rendait compte que tout lui était devenu indifférent, même la beauté d'un crépuscule, même l'enfant sur le berceau duquel elle se penchait, même les caresses de son mari. Un soir, elle se prépara à une conversation définitive avec son mari, et cette conversation survint. Il se promenait dans une allée bordée de peupliers. Suspendue à son épaule, elle se taisait le plus possible. Il la fit sortir de l'allée, saisit son visage, le leva dans la direction de la lune.
« Regarde-moi. On pourrait vraiment croire que tu es malheureuse. Tes yeux sont si étranges aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Olga ?»«
Je ne m'ennuie pas. Je ne suis pas malade, mais triste. Je peux te le dire, homme insupportable qui lit dans les pensées. Oui, je suis triste. Seulement, je ne sais pas pourquoi. »«
Il doit quand même y avoir une raison. C'est moi qui te rends triste ?» Ou bien c'est quelque chose autour de toi, ou encore toi-même. Et puis je t'assure, la tristesse est parfois un symptôme de maladie. Comment te sens-tu? Réponds.
Oui, c'est peut-être une maladie, bien que je ne ressente aucune douleur. Tu vois, je mange, je me promène, je dors, je travaille. Mais tout à coup, une affreuse mélancolie m'étreint. La vie me semble si vide. Non, ne m'écoute pas, je dis des bêtises.
Parle! Parle! Qu'est-ce qui te manque? Quoi? Parle!
Mais parfois, c'est comme si j'avais peur... Que rien ne change, que rien ne se termine. Je ne sais pas moi-même. Ou bien une pensée idiote me tourmente. Je me demande, que va-t-il m'arriver encore? Est-ce là tout le bonheur, toute la vie? Comment dire, je commence à n'être plus satisfaite des choses. D'aucune chose. Mon Dieu, je rêvasse, je dis des bêtises. Ne m'écoute pas, ne me regarde pas surtout. Ce n'est rien, je t'assure, ça va passer. Et d'une minute à l'autre, je vais redevenir gaie. Elle se serrait contre lui, timidement. Affectueusement. Ils se remirent à marcher.
Si ce n'est pas le symptôme de quelque trouble physique, Si tu es parfaitement bien portante, alors peut-être as-tu mûri au point...
Tu veux dire, si je comprends bien, que j'ai vieilli ? Tais-toi, je suis encore jeune, forte. Elle alla jusqu'à le menacer. Il se mit à rire.
N'aie pas peur. Ce n'est pas la vieillesse. Quand on se fait vieux, on cesse de lutter. Or, toi, tu sais bien. Oui, ta tristesse, tes langueurs sont signes de force. L'inquiétude déborde parfois les limites de la vie. Elle ne trouve pas de réponse. Et alors, la tristesse vous gagne. Une tristesse qui est celle de l'âme, interrogeant le mystère de la vie. Peut-être est-ce tout cela qui se passe en toi. Dans ce cas, ce ne serait pas des bêtises.
Elle soupira, mais de soulagement surtout, contente de ne pas se sentir diminuée dans l'estime de son mari, bien au contraire. Mais non, je suis heureuse, si tu savais comme j'ai soif de vivre. Alors pourquoi cette amertume soudain ?
C'est la rançon du feu de Prométhée. Mais il ne suffit pas que tu endures cette tristesse, cette souffrance. Il faut encore que tu l'aimes et que tu respectes tes questions, que tu respectes tes doutes. Ils surviennent, vois-tu, au sommet de la vie. Quand les désirs grossiers disparaissent, la plupart des gens s'agitent sans connaître le brouillard des doutes, l'angoisse des questions. Mais pour qu'ils rencontrent à l'heure juste, ils ne sont pas des bourreaux, mais de précieux visiteurs. Ils nous obligent à regarder la vie avec un amour toujours neuf.
Mais on ne peut pas en venir à bout. Et ils engendrent l'ennui, l'indifférence pour toute chose, pour presque toute chose.
Le soutien dans la vie, cela existe. Si on n'a pas de soutien, alors, même sans toutes les inquiétudes, on ne veut plus continuer à exister.
Et que faire ?
S'armer de courage et continuer patiemment, opiniâtrement. Nous ne sommes pas des titans, nous ne devons pas livrer un combat téméraire aux questions insidieuses. Nous devons, baissant la tête, laisser passer la minute difficile pour ensuite sourire de nouveau à la vie, tendre vers le bonheur.
Et si ces questions insidieuses ne desserrent pas leur étreinte ? Si la tristesse vous opprime de plus en plus ?
Alors nous devons les accepter comme faisant partie intégrante de la vie. Non, je dis cela, mais pour nous, pour toi, c'est pas vrai. Ta tristesse n'a rien de terrible. Puisse-t-elle seulement être ce que je pense, et non l'indice de quelque maladie, car devant celle-ci, je me trouverais sans défense, sans force. Mais s'il ne s'agit pas de maladie, alors je t'assure... Oui. Est-il possible que le brouillard, la tristesse, les problèmes puissent nous priver de notre bonheur ?
Il n'acheva pas. Elle se jeta comme une folle contre lui, l'étreignit comme une bacchante. Ni le brouillard, ni la tristesse, ni la maladie, ni même la mort, murmura-t-elle, de nouveau heureuse, paisible, gaie. Il lui semblait qu'elle n'avait jamais aimé Stolz comme à ce moment-là.
Si Rilke et Gontcharov nous mettent sur la voie d'une acceptation de l'existence, un autre grand écrivain nous invite à savoir accueillir l'inattendu.
Le bonheur est une chose médiocre.
Eugène Ionesco.
Et ce qui rend les gens malheureux, c'est qu'ils sont à la recherche du bonheur, précisément. Je fais une distinction entre le bonheur et la joie. Le bonheur est médiocre, mais la joie, c'est ce que nous devons chercher réellement. Quelque chose de plus que le bonheur, c'est-à-dire une certaine tension. On se replace, on se resitue dans la vérité, dans l'étonnement. Je reviens toujours à l'étonnement. La joie, c'est la rencontre de l'homme avec l'absolu.
Célèbre dramaturge, auteur de La cantatrice chauve et de Rhinocéros, entre autres, Eugène Ionesco signe en 1967 un étonnant journal en miettes où il livre ses souvenirs et ses notes sur la littérature. Cet anti-journal, écrit par celui qui se considérait comme un anti-auteur, fourmille d'aphorismes d'une grande ironie. Je cite « J'ai tellement couru après la vie que je l'ai perdue. » Ou encore « Encore une vie qui se raconte. » Il est aussi le lieu d'une interrogation sur l'absurdité de l'existence. J'ai écrit tout un théâtre, toute une littérature pour montrer ce que personne n'ignore et pour me confirmer à moi-même ce que j'ai toujours su. L'insolite de l'univers, la banalité quotidienne que seule l'atroce transperce. Ce que vous retenez, chère Adèle, de ce très beau texte personnel, c'est la capacité de l'artiste à se laisser surprendre par la vie. L'extrait que vous allez nous lire, car c'est vous qui allez nous lire, cet extrait est une page lumineuse qui survient après des centaines de pages d'une grande mélancolie souvent désespérée.
Tout d'un coup, une allégresse, une joie. Depuis des années et des années, je n'avais pas ressenti cela. Tout me semblait fatigant, inintéressant, gris, morne. J'étais incapable de lire un livre, de m'intéresser à une conversation, à un spectacle. Je détournais les yeux. Tout était une peine, un devoir. Écrire des pièces de théâtre, voir jouer des pièces de théâtre, les réunions mondaines, ou professionnelles, ou amicales, tout m'épuisait. La notoriété littéraire, sans intérêt. Sans intérêt, elle aussi. Même le désir s'épuisait, se détruisait, rongé par l'à quoi bon. Je me disais qu'il fallait vivre. Et ce fut tout d'abord par une sorte de devoir imposé par moi-même que j'eus ce qu'on appelle des aventures. Le monde entier me semblait terne, comme plein de boue. J'étais incapable de fixer mon attention sur quoi que ce soit. Et derrière tout, cette pensée, je ne vis pas. La vie s'en va. Et à l'intérieur de chaque fruit, le noyau inévitable de l'angoisse, de l'idée de mort. Cela n'a pas disparu, bien sûr. On ne peut se débarrasser si facilement de cela. C'est comme si je voyais en plein jour la nuit mêlée au jour, le soleil noir de la mélancolie. Et puis tout à coup donc, cette joie, dont je ne peux rien dire, sauf qu'elle est insensée. Mais il faut l'accepter comme insensée, admettre que tout bonheur ne peut être qu'insensé, mais le vivre intensément. Je dois dire que parfois, durant ces dernières années, une promesse, un début de bonheur, venait éclairer le ciel de ma tristesse. Je lui opposais un « à quoi bon ?» un « qu'est-ce que ça veut dire ?» ou « cela ne m'empêchera pas de mourir ?» ou « aucune raison d'être heureux ?» Cette sorte de lueur de bonheur s'éteignit instantanément et je retrouvais ma grisaille. Cette fois-ci, c'est comme si j'avais compris que la joie est un don du ciel. Elle est comme la grâce, inexplicable, mais évidente, certaine. Elle n'est pas explicable, elle n'a pas de raison, et ce doit être cela, sa raison. Et cette absence de raison, c'est peut-être la seule raison valable, possible, vraie. Cela revient donc à affirmer, après tant d'autres, que l'ignorance est la cause de notre souffrance, qu'elle en est même peut-être sa substance. Puisque nous ne pouvons être qu'ignorants, une seule solution. Ignorons l'ignorance et faisons confiance. Faisons comme si nous savions. Et dans cette allégresse que j'ai ressentie hier, le monde m'est apparu dans une autre lumière, dans une lumière toute neuve. C'est comme si les arbres, les maisons, les visages, l'eau et le ciel avaient été nettoyés. Comme si tout était devenu propre, renouvelé, rafraîchi. Mais surtout, ce sentiment de propreté. Et je sentais que le monde redevenait, était intéressant, très intéressant. Qu'avais-je donc fait depuis si longtemps? Où avais-je été? Qui m'avait empêché de regarder et de voir? Chaque parcelle de ce monde me semblait pleine d'intérêt, du plus grand intérêt. Fraîcheur et virginité de mon univers intérieur, renouvellement intérieur, une âme libérée ou rajeunie. Si je change, je change le monde, pourvu que cela dure, pourvu que cela reste propre, pourvu qu'il y ait toujours cette fraîcheur, pourvu que cela ne se salisse plus.
Chaque chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives, caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des âmes bien élevées, pour détourner l'attention de nos sexes souillés. Mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut lui plaire. Quand les doutes arrivent, que la honte récidive, joies répétitives savent nous rassurer. Mais du noir, du bleu pour barbouiller nos yeux, pour faire croire, même si c'est faux, qu'aujourd'hui on va mieux. On boit, on mange entre copains pour parler de nos habitudes, celles d'hier, celles de demain, pour comparer nos solitudes. On se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre, hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre, essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler qu'on est déjà à l'âge d'or du rebelle attardé. Quand les doutes arrivent, la honte récidive, nos joies répétitives savent nous rassurer. On embrasse tour à tour des garçons et des filles, car pour nous tout ce qui compte c'est de voir des yeux qui brillent. Mais on rêve secrètement de rencontrer notre amour, celui qui durera jusqu'à la fin du dernier jour. On accepte de ramper le regard effacé, la bouche qui veut vomir notre amour ravalé. On pense à cette fois parfaite où on a tout gâché, en laissant s'échapper un je t'aime mal placé. Oh, oh, oh. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive, nos joies répétitives savent nous rassurer. Arrive que la honte récidive, joie répétitive, savent nous rassurer.
Nous voici bientôt à la fin de votre parcours littéraire, chère Adèle. Du refus du monde chez Oblomov au miracle de la joie chez Ionesco, vous nous avez montré le chemin pour sortir de la mélancolie et parvenir à l'acceptation de l'existence. Au bout du voyage, vous nous invitez à rejoindre un grand intellectuel, figure de l'écrivain engagé, que vous admirez particulièrement, Albert Camus. Il nous donne rendez-vous pour de magnifiques noces en Algérie, sous un soleil qui fête la réconciliation avec le monde. Voici un extrait de Noces à Tipaza, rédigé en 1937. Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits poings fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps. Il y avait du romarin derrière moi, et j'en percevais seulement le parfum d'alcool. Des collines s'encadraient entre les arbres, et plus loin encore un liseré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur propre cœur. C'était précisément cela que je ressentais. J'avais bien joué mon rôle. J'avais fait mon métier d'homme. Et d'avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle, mais l'accomplissement ému d'une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d'être heureux. Nous retrouvons alors une solitude, mais cette fois dans la satisfaction. Maintenant, les arbres étaient peuplés d'oiseaux. La terre soupirait lentement avant d'entrer dans l'ombre. Tout à l'heure, avec la première étoile, la nuit tombera sur la scène du monde. À vous, chère Adèle, avec cet autre extrait de Noces de Camus, l'été à Alger, qui célèbre la plénitude de l'homme renouant avec ses instincts de jouisseur.
Sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu'il est toujours un lieu où le cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup de certitude pour une seule vie d'homme. Oui, c'est là-bas qu'il nous faut retourner. Cette union que souhaitait Plotin, quoi d'étrange à la retrouver sur la terre? L'unité s'exprime ici en termes de soleil et de mer. Elle est sensible au cœur par un certain goût de chair qui fait son amertume et sa grandeur. J'apprends qu'il n'est pas de bonheur surhumain, pas d'éternité hors de la courbe des journées. C'est bien dérisoire et essentiel, ces vérités relatives sont les seules qui m'émeuvent. Il n'est pas toujours facile d'être un homme, moins encore d'être un homme pur. Mais être pur, c'est retrouver cette patrie de l'âme où devient sensible la parenté du monde, où les coups du sang rejoignent les pulsations violentes du soleil de 2 heures. Il est bien connu que la patrie se reconnaît toujours au moment de la perdre. Je ne voudrais pas être brutal ni paraître exagéré, mais enfin, ce qui me nie dans cette vie, c'est d'abord ce qui me tue. Tout ce qui exalte la vie accroît en même temps son absurdité. Dans l'été d'Algérie, j'apprends qu'une seule chose est plus pratique que la souffrance, et c'est la vie d'un homme heureux. Mais ce peut être aussi bien le chemin d'une plus grande vie, puisque cela conduit à ne pas tricher. Beaucoup, en effet, affectent l'amour de vivre pour éluder l'amour lui-même. On s'essaie à jouir et à faire des expériences. Mais c'est une vue de l'esprit. Il faut une rare vocation pour être un jouisseur. La vie d'un homme s'accomplit sans le secours de son esprit, avec ses reculs et ses avances, à la fois sa solitude et ses présences. Voici du moins l'âpre leçon des étés d'Algérie. Mais déjà la saison tremble et l'été bascule. Première pluie de septembre, qui sont comme les premières larmes de la terre délivrée. À la même époque, les caroubiers mettent une odeur d'amour sur toute l'Algérie. Et voici qu'à nouveau cette odeur consacre les noces de l'homme et de la terre et fait lever en nous le seul amour vraiment viril en ce monde, périssable et généreux.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Bernard Laniel à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Léla Gros-Séliquois, Perrine Malinge et Claire Tessert. Et beaucoup par vous, Adèle.
Merci, Guillaume.
Je rappelle que l'on peut vous écouter chaque matin à 10h sur France Culture dans l'émission Les Chemins de la Philosophie. Quant à nous, à la semaine prochaine.